Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Le déficit global du système de retraite français s'est donc établi à 18 milliards d'euros en 2020, selon un rapport du Conseil d'orientation des retraites, contre 25 milliards prévus fin novembre. Ça en dit long d'ailleurs sur les prévisions, et c'est quelque chose, moi, qui m'étonne toujours. C'est-à-dire qu'à 6 mois de différence, ceux qui nous gouvernent ou ceux qui travaillent dans l'administration se trompent juste de 10 milliards quand même. Donc c'est assez intéressant, parce que si on se dit si tout fonctionne comme ça, effectivement, d'abord on comprend mieux certaines choses, mais on en est quand même étonné. Gaëlle est donc avec nous. Gaëlle, vous êtes dans les ressources humaines, donc vous êtes concernée par ce type de mesures qui pourraient arriver. Quels sont vos souhaits et quelles sont vos craintes?
Mes craintes, moi, c'est effectivement continuer à travailler longtemps. Je ne suis pas sûre de pouvoir, en vieillissant, me mettre toujours à jour des systèmes. Et je vais devenir obsolète par rapport à la société. Donc, les licenciements et tout ça. Et d'un autre côté, il faut faire des réformes. Mais lesquelles? Éventuellement, peut-être cotiser un peu plus. Mais sachant que ce qu'on cotise maintenant, ce n'est pas pour payer nos retraites dans le futur, c'est pour payer les retraites actuelles.
Cotiser un peu plus, ça veut dire cotiser un peu plus longtemps. C'est-à-dire décaler l'âge de départ à la retraite, c'est ça?
Ça, c'est le truc qui me plaît un peu moins, ou peut-être quand je dis cotiser un peu plus, peut-être augmenter un petit peu le taux éventuellement de cotisation. Je sais que ça va faire hurler.
On est le pays, je veux bien qu'on cotise encore plus, on est le pays le plus taxé. Pourquoi vous voulez qu'on soit encore plus taxé?
Et pourquoi vous voulez travailler encore plus longtemps?
Je vais vous donner quelques arguments. D'abord parce que la vie est quand même plus longue aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 30 ou 40 ans. C'est un argument qui s'entend?
Oui, tout à fait.
Bon, la deuxième chose, c'est que lorsque je vois ce qui s'est fait ailleurs, une nouvelle fois, je veux bien qu'on ait raison contre tout le monde, mais on est le pays qui part le plus tôt à la retraite. C'est-à-dire qu'il n'y a que la Suède, je le disais tout à l'heure, qui part avant nous, 61 ans. L'Italie part à 67 ans, l'Islande part à 67 ans, dans l'Union européenne, je parle uniquement. L'Allemagne, 65, l'Autriche, 65, la Belgique, 64, le Danemark, 66. Tous les pays de l'Union européenne partent après nous.
Mais à ce moment-là, est-ce qu'ils ont bien ils ont sûrement des politiques de l'emploi des personnes d'un certain tranche d'âge? Parce que quand vous arrivez à 50 ans sur le marché du travail, après une période de chômage, pour les sociétés, vous êtes déjà trop vieux.
C'est un argument excellent. C'est un argument excellent. Vous avez parfaitement raison, puisque les gens de 55 ans ne retrouvent plus de job. Vous avez parfaitement raison. C'est un argument excellent, Gaëlle. Mais par exemple, vous avez envie, vous vous ennuyez dans ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes fatigué, vous dites vivement la retraite, parce que vous êtes quand même jeune, vous avez 48 ans, ou au contraire, vous vous dites, moi, j'ai pas envie d'être en retraite, parce que être en retraite, c'est parfois une activité intellectuelle, cérébrale, qui peut baisser, disons-le, parce qu'on est moins au contact du travail.
Alors, je suis pas pressée d'être à la retraite. Je me plais totalement dans ce que je fais. Je continue à m'épanouir puisqu'on a des nouveaux challenges assez réguliers en RH et en paye. Mais je me dis que dans 10 ans, je dirais peut-être autre chose. Voilà, j'aurai 10 ans de plus. Est-ce que je
58 ans, c'est jeune, Gaëlle.
C'est jeune, oui, mais voilà, il suffit qu'on ait eu un arrêt maladie, que des nouveaux systèmes soient arrivés. Faut faire face à tout ça aussi parce que maintenant, c'est beaucoup d'informatique. Tout est informatisé. Mais par contre, j'y pense à la retraite. J'y pense quand même en la prévoyant, en prévoyant une épargne, voilà.
Oui, parce que le jour où vous partez à la retraite, c'est 50% de votre revenu qui s'en va. En gros, c'est ça. En gros.
C'est ça. En gros. Et puis tous les avantages qu'on a pu quand on a la chance de travailler, éventuellement pour ceux qui ont la chance d'avoir des tickets restaurants ou accès à des CE, du coup, d'un seul coup, vous devez tout payer par vous-même et le coût de la vie, du coup, est beaucoup plus dur.
Vous êtes ressources humaines, vous êtes dans quelle branche?
La paye, très exactement.
D'accord. Mais dans quel type d'activité êtes-vous?
Transport aérien mondial.
Et donc, les gens partent à quel âge à la retraite chez vous?
Écoutez, pour l'instant, on a une population, depuis 95 que je suis dans ma société, on a une population vieillissante, mais on n'a pas tant de départs en retraite que ça, étant donné que on est tous rentrés à peu près en même temps, et donc on arrive tous à peu près sur la même courbe d'âge.
Et les gens sont plutôt heureux lorsqu'ils partent à la retraite, puisque malgré tout, il doit y avoir quand même quelques départs,
ou
ils sont inquiets?
Il y a quelques départs en retraite, des gens qui ont été usés et abîmés par le travail. Et malheureusement, pour ce qui est de l'an dernier, nous avons un collègue qui est parti en octobre à la retraite et qui, au mois de mars, est décédé.
Ah oui, effectivement, c'est...
Donc, c'est pas réjouissant, quoi. Un départ en retraite comme ça, on se dit que...
C'est douloureux. Voilà. Ben merci beaucoup Gaëlle de ce premier témoignage. C'est un sujet qui va nous amener au moins jusqu'à 13h30. Alors, il y a un garçon qui n'est absolument pas concerné par la retraite. Il n'y pense pas du tout, c'est Greg Caranoni, puisqu'il est au tout début de sa...
Qu'est-ce que la retraite ?
Mais non, mais je me pose si vous aurez une retraite. Vous. Je pense qu'à votre âge, je pense qu'il faudra bosser, mon vieux.
Depuis qu'on est petit, notre génération, en tout cas, j'ai l'impression qu'on dit de toute façon, vous n'aurez pas de retraite. J'entends mes grands-parents me le dire alors même que je n'avais pas commencé à travailler. Voilà.
On va laisser passer. Je ne sais que répondre.
Pas grand-chose. Bon, travaillez bien. Dites-moi de bien travailler.
Eh bien, on va laisser passer quelques secondes de pause. Et alors, les autres sujets, il y a un sujet. C'est l'ami Laurent Tessier qui a absolument voulu que nous évoquions ce sujet. Je pense qu'il est directement concerné. Faut-il en finir avec cette différence de tarif entre les femmes et les hommes chez le coiffeur ? C'est la demande d'un collectif coiffure en lutte. Il y a vraiment des gens qui n'ont rien à faire quand même. J'ai rien contre coiffure en lutte, mais tu ne sais pas si c'est du second degré ou pas. Peut-être d'ailleurs. Il propose d'ajuster les tarifs selon la technique et le temps passé. Une femme avec les cheveux longs qui veut juste se faire couper les pointes paiera plus cher qu'un homme alors qu'une coupe dite homme demanderait plus de travail. Franchement, vous vous rendez compte, il y a un collectif coiffure en lutte.
C'est un scandale. Moi, je suis scandalisé par ce...
Donc ça, c'est un sujet.
Je pense ça va me coûter très cher.
Mais vous pouvez nous donner évidemment votre avis. Et puis, il sera très difficile de garder le masque après le 30 juin. C'est Jean-François Delfrécy ce matin sur RTL qui a dit cela. Donc ça m'intéresse aussi. Faut-il enlever le masque à partir du mois de juillet ? Le 1er juillet, j'enlève le haut. Vous vous souvenez de cette publicité, peut-être ? Et puis, un tweet qui fait parler, celui de Raphaël Enthoven. Entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, il vote Marine Le Pen. Donc appelez-nous, 3210. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. La réforme des retraites, c'est le sujet qui vous fait réagir au 32-10. La semaine dernière, lors d'un déplacement dans le Lot, Emmanuel Macron avait prévenu.
Je ne pense pas que la réforme qui était initialement envisagée sur la retraite puisse être reprise en l'état. Elle était très ambitieuse, extrêmement complexe, et du coup elle était porteuse aussi d'inquiétude, il faut bien le reconnaître. Par contre, est-ce que nous pouvons, en quelque sorte, ne rien faire sur la retraite dans les mois qui viennent ? Parce que je pense que c'est la mère des réformes. Pour moi, c'est la priorité absolue.
Le déficit de notre système de retraite s'est établi à 18 milliards d'euros en 2020. C'est moins que prévu. Il devrait même être inférieur à 10 milliards cette année. Alors faut-il abandonner cette réforme ? Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, estime que ce serait une folie de l'engager avant l'élection présidentielle de 2022. Et sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Sophie s'énerve. Ils veulent faire travailler plus longtemps les vieux alors que les jeunes se tournent les pouces. Propos partagé par José. Il faut redonner le goût du travail à notre jeunesse. J'en connais pas mal qui ne cherchent pas de boulot, s'installent dans une routine.
Et Ludovic Van de Kerkhoff qui supervise notre émission, qui est rédacteur en chef du 13h, me précise qu'effectivement, si on ne fait rien déjà, ça augmente mécaniquement, ça prend quelques mois en même temps que les années passent, ce qui fait qu'on serait à 64 ans en 2040 pour le départ à la retraite. Ça, c'est si on ne faisait rien, puisqu'on a déjà calculé une sorte d'indexation du départ à la retraite. François est avec nous. François, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Vous habitez Deauville et vous êtes vous-même retraité.
Oui, alors quand
depuis combien de temps ?
Eh bien, j'ai 69 ans, ça fait 5 ans.
5 ans. Vous êtes donc parti à 64 ans.
Oui.
Alors, regret ou pas ?
Naturellement, quand on a un petit travail et puis qu'on aime son travail, on aime bien travailler. Quand vous êtes dans un canapé, vous attrapez beaucoup de maladies, vous voyez ce que je veux dire. Dites, quand on voit un déficit de 18 milliards, quand on voit que la majorité est bien majoritaire à l'Assemblée nationale, on fait quelque chose. On reste pas comme ça à repousser encore pour le prochain qui va revenir, parce qu'ils ont tous les mouettes à faire, vous savez, la réforme de la retraite. Et quand on voit l'Allemagne qui a 67 ans l'âge de la retraite, comment voulez-vous augmenter les retraites que tout le monde se plaint qu'on ait des petites retraites, pas tout le monde, parce qu'il va falloir réformer les régimes spéciaux aussi, parce qu'ils n'ont pas passé par là, les régimes spéciaux. Quand on a une catégorie qui a des retraites à 52 ans, 57 ans dans la police, par exemple, 52 ans les chauffeurs de train, il faut réformer tout ça, puis il faut augmenter les toutes petites retraites. Il faut aller jusqu'à 67 ans, 18 milliards, après on va passer à 20, 30, et puis vas-y donc, et c'est toujours les autres qui paieront la suite. Et puis, naturellement, vous avez, comment je vais vous dire, 30% de la catégorie. Ben, François de Closet avait écrit un livre. 30% de la catégorie de la fonction publique prend. Non, les 30% de fonctionnaires prennent 60% de la caisse de retraite. Est-ce que c'est normal? Non, il faut revoir ça également. C'est pas normal quand on voit des gens en retraite à 50, 55 ans et 60 ans.
Ouais, des gens à 50 ans, il n'y en a plus aujourd'hui. Des gens en retraite à 50 ans, c'est tout à fait.
Bah, les chauffeurs de train, M. Pro, il a la retraite à 52 ans. Et il appuie simplement sur une petite manette, le train avance tout seul. On ne peut pas dire qu'ils mettent du charbon dans le train aujourd'hui. Je ne pense pas. Bon, tout ça, il faut revoir tout au maximum.
Je suis d'accord avec vous, mais j'ai entendu, pour le coup, moi j'ai entendu les avis de chaque côté. C'est vrai que les régimes spéciaux, en soi, ça peut être choquant. Mais c'est vrai aussi que les salaires étaient plus bas à la SNCF. Donc il y avait une sorte de deal qui était organisé avec vous aurez peut-être des salaires plus bas, vous partirez plutôt à la retraite. C'est pour ça qu'il faut prendre entièrement. Moi, j'ai été très sensible aux arguments des uns et des autres.
Dites, le SNCF, elle a dépassé la moyenne française. Vous avez 50-60% de personnes qui touchent 1600 euros en ce moment en France, vous le savez bien. Les salaires des SNCF sont au-dessus de ça, monsieur Pro, vous le savez très bien. Donc, là, longtemps qu'ils ont rattrapé le temps perdu, c'est juste bon en 46. Mais le coût des années, il faut passer cette réforme à 67 ans et qu'on soit débarrassé. Mais il n'aura pas le courage, monsieur Macron. Qu'est-ce qu'il a fait comme réforme depuis qu'il est là? Rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait, M. Hollande, depuis 5 ans qu'il a passé au pouvoir?
Il a tenté des réformes, quand même, Emmanuel Macron. Il a fait quelques réformes, d'ailleurs. Pardon?
Citez-moi-en une.
Par exemple, la réforme sur l'impôt sur le revenu, c'est une réforme importante. La retenue à la source.
On est surchargé, on est mitraillé. Il n'a pas de mal à en baisser un petit peu.
Non, je parle des.
Alors, Et là, regardez, par exemple, les syndicats sont pour les prélèvements en plus. Mais quand est-ce que ces gens-là vont venir dans la logique? Quand est-ce qu'on va trouver une logique pour le travail, une logique pour les salaires, une logique pour les retraites? Il n'y a pas de logique. Si jamais, par exemple, on augmente les prélèvements obligatoires, on ne sera pas compétitif pour les entreprises, ils vont délocaliser encore. C'est une chaîne sans fin avec la gauche caviar. Vous voyez, la gauche caviar, elle sait tout faire, elle a raison partout. On la voit partout dans les manifs, ils récupèrent les gilets jaunes, ils récupèrent tout. Vous voyez ce que je vais vous dire? La dame dans les gilets jaunes, elle avait dit, qu'est-ce qu'ils font? Vous vous rappelez ça? Les syndicats, peu de temps après, quelques mois après, ils ont récupéré les gilets jaunes. Ils étouffent toujours les choses qu'il faut réformer parce qu'ils sont tous concernés. Ils ont tous des régimes spéciaux. Quand vous voyez M. Mélenchon, il frise les 40 000 euros de retraite par mois. Alors écoutez, il peut avoir un prélèvement d'1% de plus sur ça. Sur sa retraite, il ne va pas s'en apercevoir. Hein. Donc, il faut aller voir. Il faut faire.
Vous trouvez que le président n'est pas assez courageux? Et alors, j'ai entendu. Et donc, pour vous, le meilleur moyen, c'est de reculer l'âge du départ à la retraite?
Oui, naturellement. Mais pour tout le monde. Les chauffeurs de train, là, il faut les passer à 67 ans pour tout le monde. Et regardez la police.
Vous n'allez pas être élu tout de suite. Si vous passez de 52 ans à 67 ans, 15 ans de travail en plus. Vous n'allez pas faire du monde,
non, mais,
François.
Non, mais attendez, ce qui nous manque, un homme d'État, il nous en manque un homme d'État comme ça. Vous voyez ce que je veux dire?
Ah oui, quelqu'un qui passe de 52 à 67 ans, il ne va pas être élu tout de suite non plus.
Mais pourquoi lui, il a 52 ans puisqu'il conduit un train et qu'il touche 3 000 euros par mois? Mais vous vous rendez compte? Et il a combien de retraites? Il a pas loin de 3 000 euros de retraite par mois. De 52 ans à l'âge moyen d'un homme, c'est 80 ans. Les femmes, c'est 85 ans. Il a, par exemple, regardez, il a plus de 20 ans de retraite à 3 000 euros par mois. C'est-à-dire qu'il a travaillé à peu près une vingtaine d'années, il est autant en retraite. Vous trouvez ça juste? Vous trouvez ça normal?
Tel que vous dites là, normal. Effectivement, la question peut être posée. Merci en tout cas, François Deauville.
Voilà, de rien, je vous en prie, autant pour la prochaine fois.
Mais non, il fait beau à Deauville.
Oui, il fait très
bon,
beau.
Vous avez une belle retraite?
Normal, moyenne.
Vous êtes satisfait?
Oui, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que si on veut augmenter les petites retraites, il va falloir que les autres qui ont des régimes spéciaux, il va falloir les.
J'ai bien compris. Cette chose-là. J'ai bien
parce
compris.
Que c'est eux qui prennent 60% de la caisse.
J'ai bien compris, normal, François.
Ils ne sont que 30%. C'est François Duclosé qui écrit le livre. C'est pas moi qui le cite, c'est pas moi qui l'invente.
C'était juste pour se dire au revoir que je posais la question. Merci beaucoup, François.
Il va falloir réformer entièrement et il ne fera aucune réforme, monsieur Macron.
Oui, mais là, on redit ce qu'on vient de dire, François. Donc, mais merci. Merci à vous. On va parler, figurez-vous, de Francis Lalanne. Vous avez peut-être vu la vidéo Francis Lalanne. Ça s'est mal passé avec un confrère de Quotidien, l'émission sur TF1. Et manifestement, ils en seraient venus aux mains. Mais Francis Lalanne dit non, il n'y a pas eu de coup d'échanger. Donc, on en parle ensemble.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il faut que tous les deux ou trois mois, on parle de Francis Lalanne. Le journaliste de Quotidien a déposé plainte à Paris contre le chanteur Francis Lalanne, l'accusant de lui avoir donné un coup de poing et de l'avoir frappé avec un casque d'écoute samedi à Avignon. C'est ce qui a été annoncé hier dans l'émission de TMC, Laurent.
Et on va revenir sur ce qu'il s'est passé exactement. L'entretien se déroulait correctement, mais à un moment donné, Francis Lalanne est interrogé sur les insultes, les propos qu'avait tenus Jean-Marie Bigard sur l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn.
Si vous comptez sur moi pour dire du mal d'un ami, vous êtes... Ma réaction, c'est que je n'aime pas ce que vous venez de dire. Je n'aime pas la façon dont vous présentez les choses.
C'est un appel au meurtre.
Vous présentez les choses, ça s'appelle de la manipulation. Donc moi, à partir de ce moment-là, je ne réponds plus.
La suite, vous allez l'entendre, est plus tendue.
Monsieur, enlevez ce cadre à la caméra.
Francis Lalanne conteste formellement avoir frappé quelques journalistes que ce soit, selon son avocat. Et j'ai l'impression d'être dans une cour de récréation, réagit Claude sur nos réseaux sociaux. C'est lui qui a commencé, pas moi. On ne tient plus Francis Lalanne, déplore Aurélie. Il va trop loin depuis un bon moment. Et après, il demande à la fin de ne pas être filmé, rajoute Gabriel. Il faut aussi respecter son choix.
Et on l'a appelé tout à l'heure, Francis Lalanne. On était dans le bureau vers 13h-5. Et on lui a dit, mais viens parler sur l'antenne d'RTL. Et je lui ai même proposé d'échanger avec les auditeurs. Et il m'a répondu par texto, il m'a dit « Mais pourquoi faire? Vous voulez quoi? Faire le buzz ou la vérité ?» La vérité, vous l'avez devant les yeux, sur leurs propres images, aucun coup n'a été donné. Et puis j'ai une longue réponse, effectivement, où il dit « Je n'ai rien commis de répréhensible et ma colère était justifiée par l'attitude du prétendu journaliste, etc. » Donc Louis est avec nous, Louis qui est banquier et qui habite la Vendée.
Oui, bonjour Pascal.
C'est chic d'être banquier. Qu'est-ce que vous faites? Je suis banquier.
Non, justement. Non, c'est une sorte d'étiquette. Je m'occupe au sein de la banque. Je ne vends pas de produits financiers. Et les banques font ce qu'elles peuvent pour jouer leur rôle. Et on en est un peu assez parfois d'être stigmatisé. Mais c'est pas ce pourquoi j'appelais, en fait. J'appelais pour dire que moi, j'ai connu Francis Lalanne quand j'allais à la faculté en mobilette, avec ma 103 Peugeot. Je voyais là d'énormes affiches sur Francis Lalanne. Ça monte à 82, hein. Donc voilà, moi j'ai 56 ans aujourd'hui. Il a quelques années de plus que moi. Et moi, j'ai été fasciné par le bonhomme. Ensuite, j'ai eu la chance de le voir au théâtre, dans une pièce remarquable, adaptée, qui s'appelle L'Affrontement, où il jouait avec l'immense Jean-Pierre. L'Affrontement, le vieux Jean-Pierre Trémur, avec l'homme plein de foi et complètement, avec toute l'ardente jeunesse, et il jouait remarquablement. Et il y avait des dialogues très, très beaux, d'ailleurs, dans cette pièce, et même Jean-Pierre disait qu'il avait beaucoup apprécié de jouer avec Lalanne, que Lalanne n'était pas un comédien, c'était un chanteur à l'origine, mais bref, avec le soutien de quelqu'un de plus mûr comme l'immense Jean-Pierre, ça a été un spectacle remarquable qui a, je crois, fait plusieurs saisons. Ensuite, le rôle a été repris par David Sardou, qui était tout aussi très très bon. Enfin bref, c'était une très belle pièce. Bon, pourquoi il dit ça? C'est un vrai artiste. C'est un homme qui a une vraie sensibilité artistique. On l'avait vu quelques années plus tard dans une télé-réalité filmée par Canal+. On le voyait avec son chauffeur. On voyait toutes ses extravagances aussi. Enfin, ça fait partie du personnage. Et aujourd'hui, on a un homme en colère qui n'est pas provoqué par un journaliste et qui s'auto-met en colère tout seul. Et ça, c'est dramatique. Parce que la colère devient presque légitime alors qu'elle ne démarre que de lui. On lui demande gentiment son avis sur quelque chose, bon, qui ne laisse pas forcément un bon souvenir, mais il aurait pu répondre avec sa profondeur artistique. Bon, il a toujours un timbre de voix agréable. On voit que c'est quelqu'un de riche hein, intellectuellement. Mais il tombe là de façon navrante et moi je le regrette. Voilà ce que je voulais dire.
Non mais Louis, je ne vous ai pas interrompu. C'est vrai que la grille de lecture avec les artistes, elle est sans doute différente de personnalité plus classique.
Oui.
Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'écorché vif chez lui. Il surréagit, parce qu'il le dit d'ailleurs, c'est son ami. le Jean-Marie Bigard. Donc évidemment, Bigard a dit n'importe quoi et a fait même un dérapage. Ce qu'il a dit, c'est odieux, même ce qu'il a dit d'Agnès Buzyn, et je ne vais pas le répéter là, mais c'est odieux, inadmissible, scandaleux. Bon. Et au lieu, effectivement, de dire je condamne Jean-Marie Bigard, comme c'est son ami et que c'est insensible, et c'est pour ça que les grilles de lecture sur les artistes sont parfois particulières, comme c'est un écorché vif, il ne veut pas condamner son ami. Et à partir de ce moment-là, un mot enchaîne un autre mot, et on arrive à ce conflit avec le journaliste.
Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais ce qui est navrant, c'est que cette colère devienne légitimité, alors que
c'est ça
il
que
a
je comprends
tout,
pas pourquoi vous dites qu'elle n'est pas du tout légitime. Au contraire, cette colère, parce qu'elle est exagérée.
Et mais que ça soit quelqu'un en colère dont la carrière est compliquée et qui se soit replié sur des territoires à éclaircir. Hein. On a du mal à le suivre et à le comprendre. D'accord. Mais là, alors qu'il est interviewé de façon correcte, qu'il s'auto-énerve tout seul, c'est navrant et ça se retourne complètement contre lui. Et
alors,
c'est ça. Bon, ouais.
Le journaliste a porté plainte, c'est Paul Laroux. Touroux, que vous pouvez voir le soir sur Quotidien, il a une entorse au poignet droit et le caméraman a un traumatisme crânien, une tendinite post-traumatique à l'épaule gauche, en tout cas les informations de Quotidien. Et je précise que Francis Lalanne dit qu'il n'a pas touché ce caméraman ni ce journaliste, il dément les faits. Une pause, à tout de suite.
Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
RTL.
Roland Garros 2021.
C'est toujours un plaisir d'avoir Jean-Michel Rascolo au milieu de cette émission. Et bonjour Jean-Michel, je lisais qu'il y a 40 ans, jour pour jour, Björn Borg gagnait pour la sixième fois, Roland Garros face à Ivan Lendl. Je lisais ça hier, je crois.
Oui. Il n'y avait pas beaucoup de montées à la volée, d'ailleurs. Ça jouait beaucoup en fond de cours. Et le fils de Borg joue chez les juniors cette année. Je ne pense pas qu'il ait énormément de chance de très très bien figurer dans ce tournoi, encore que. Mais on retrouve, du moins dans la gestuelle et aussi sur la figure, sur le visage de ce jeune homme, eh bien les traces de son glorieux papa.
C'est quand même dur d'être tennisman et de s'appeler Borg.
Oui, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Enfin, Platini et Zidane ont des garçons qui se débrouillent bien au foot.
En même temps, on est là pour parler de ce qui se passe sur les cours.
Alors, c'est le début des quarts de finale, voilà. Pascal.
Il n'y a toujours pas de France. Ils ne reviennent pas en deuxième semaine. Quand ils sont éliminés en première, ils ne reviennent plus.
Exactement. C'est un peu l'élimination, c'est un peu ça le principe. On ne revient pas. Mais Mademoiselle Sidanček, elle est slovène, et Badoza, espagnole, disputent les premiers quarts de finale de ce tournoi. Et pour l'instant, eh bien, c'est la slovène qui mène 7-5 et qui est menée dans le deuxième set, 5 jeux à 4. On fait des rondelles un petit peu chez les filles aujourd'hui, c'est-à-dire que on frappe moins dans la balle, on se sert un petit peu du lift pour essayer de faire reculer son adversaire. Et il n'y a pas beaucoup de public, vous le savez aussi, car s'il y a une petite dérogation pour nos amis du football, il n'y en a pas eu aujourd'hui.
J'étais sûr que vous diriez ça.
Pour nos amis du tennis.
J'étais sûr que vous feriez cette petite pique. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce qu'il y a une dérogation, 5000 personnes ce soir au Stade de France et à Roland-Garros, c'est toujours la jauge est à 1000.
Alors, la jauge est un petit peu plus importante dans la journée, mais à partir de 21h, elle sera à zéro. C'est surtout ça, pas le problème, mais la différence. Il y aura 5000 invités ce soir au Stade de France. Les spectateurs de Roland-Garros reprendront, eux, le chemin de la Porte d'Auteuil pour prendre le métro.
Merci Jean-Michel.
À tout à l'heure.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Donc nous évoquons l'affaire Lalanne, si j'ose dire, parce qu'il y a une plainte qui a été déposée, plainte par Quotidien, l'émission de Yann Barthez. Et je rappelle que Francis Lalanne dit « je n'ai touché personne ». Et c'est vrai que sur les images... vous les avez peut-être vus, on ne voit pas de coups échangés. On voit qu'il y a de l'énervement, de l'agacement, mais il n'y a pas d'images qui montrent, en tout cas celles qui ont été diffusées hier, que des coups auraient été échangés. Gilles est avec nous en Seine-et-Marne. Bonjour Gilles.
Bonjour Pascal.
Comment allez-vous ?
Ben, je vais bien et vous ?
Bah, écoutez, ça va très très bien. Quel est votre sentiment sur cette affaire ?
Mon sentiment, c'est que Lalanne s'est un peu trop énervé, que le journaliste croit qu'une carte de presse, c'est un droit divin. Voilà. Quand il dit j'ai pas envie de répondre, en gros je crois qu'on est propriétaire de son image et quand il dit rendez-moi, en gros je ne veux pas que ça soit diffusé, bah il a le droit. Et le fait d'être journaliste n'autorise pas à outrepasser ça. Si vous voulez, je vais prendre une comparaison qui va parler à tout le monde. Quand j'ai envie d'acheter une voiture, que je contacte un vendeur de voiture et qu'il me rappelle, c'est normal, mais qu'il me tanne tous les jours pour me faire acheter une bagnole, j'ai pas envie d'acheter, j'ai le droit de pas avoir envie qu'on m'empoisonne. Et sans excuser complètement l'attitude de Francis Lalanne, je pense qu'à sa place, je me serais peut-être énervé pareil.
Non mais là, vous ne retranscrivez pas exactement la réalité.
J'ai regardé les images ce matin.
Bah, l'interview, elle commence normalement. Il accepte le principe de l'interview.
Oui, oui,
il répond normalement.
Et puis après, le journaliste veut lui faire dire des trucs qu'il n'a pas envie
non,
de dire.
Non, mais pas du tout. Pardonnez-moi. Le journaliste pose une
question. On ne voit pas tous la même chose dans les mêmes images.
Le journaliste dit, qu'avez-vous pensé de ce qu'a dit Jean-Marie Bigard?
Et il répond, j'ai pas envie de répondre, c'est un de mes amis.
Il répond pas exactement ça d'ailleurs, mais ça peut ressembler à ça. Mais le journaliste, il est légitime, il pose la question qu'il le veut.
Il est légitime qu'il tant veut. Qu'il pose la question, mais quand il devient lourdement insistant, il commence à sortir de sa légitimité.
Mais à ce moment-là, à partir du moment où tu as accepté le principe de l'interview, tu l'arrêtes pas au milieu en disant « je ne veux pas que vous me filmiez ».
Si vous me permettez, quand vous acceptez le principe d'une interview, vous n'acceptez pas de façon implicite de répondre à n'importe quelle question qui ne vous convient pas.
Vous répondez aux questions qu'on vous pose, autrement ça s'appelle la Corée du Nord, si on ne peut pas vous poser les questions que vous voulez.
J'ai pas mis en cause le fait que le journaliste pose la question. Ce que je mets en cause, c'est le fait qu'il insiste pour avoir une réponse que l'interviewé ne veut pas lui donner. C'est pas la même chose. Il y a un minimum de savoir-vivre à avoir, même quand on est journaliste. Or, moi, quand j'ai vu cette interview ce matin, je me suis dit, le journaliste, finalement, explique peut-être par son attitude. Pour moi, j'ai pas vu un journaliste, j'ai vu un paparazzi, un type qui était insistant et qui considère que l'image de l'interviewé appartient au journaliste. Non, je suis pas d'accord avec ça.
Écoutez, c'est votre avis, c'est pour ça que cette émission est intéressante.
C'est pas la vérité, c'est la mienne.
Ne voyez pas de corporatisme là-dedans,
Pascal, moi je vais vous dire une chose, regardez l'image de marque des journalistes. Elle n'est pas très très bonne. Et pourquoi elle n'est pas très très bonne? Parce qu'il y a un côté, on est les élus, on a tous les droits, on peut poser toutes les questions. Comment le journaliste a des droits et l'interviewé a aussi des droits. C'est pas unilatéral.
Mais vous avez parfaitement raison, et une interview doit respecter effectivement.
J'ai pas vu le respect là. J'ai vu l'interviewé.
Alors, c'est un genre particulier que Quotidien. C'est vrai qu'ils sont sans doute plus offensifs. C'est un média où effectivement ils sont un peu plus taquins peut-être, plus offensifs, plus ironiques, plus à charge, je ne sais pas, que d'autres médias. C'est entendu, c'est plus effectivement.
J'ai entendu Francis Lalanne dire « je connais votre émission, je sais la manière que vous avez
oui, mais
de
il a commencé à y répondre. À ce moment-là, tu ne leur parles pas. Tu peux dire, écoutez-moi, je ne souhaite pas vous parler.
Il a dit à un moment, il a dit « je ne veux pas
Oui, mais au milieu, vous êtes marrant, vous commencez à accepter l'interview.
Au milieu, si vous voulez, imaginons que j'accepte un interview de votre part, et puis qu'à un moment, vous franchissez la ligne blanche. J'estime être parfaitement en droit de vous dire que vous franchissez la ligne blanche.
Mais vous avez le droit. Mais en revanche, là où vous avez sans doute pas le droit, c'est de me demander ou de m'agresser ou de m'insulter ou de souhaiter qu'on ne.
Au début, il a pas. Moi, j'ai pas. Si vous voulez, on a comme quoi la vision est différente d'un individu à un autre. Moi, j'ai vu quelqu'un qui, en gros, disait je n'ai pas envie de répondre à cette question, et un journaliste qui devenait lourdement insistant.
Merci en tout cas, Gilles. Merci beaucoup.
Bonne journée, Pascal.
Écoutez, bonne journée. Elle va être belle cette journée.
Oui, c'est bien parti.
Parce qu'effectivement, il fait plutôt du soleil sur la France. À tout de suite.
Je pense qu'on fasse une pause. Je propose qu'on fasse une pause, Pascal, puis.
Elle est belle cette chanson.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Magnifique chanson, Francis. Magnifique, formidable.
Ah, ça nous manquait ces imitations, n'est-ce pas?
Ça faisait longtemps.
Mais c'est une chanson sublime. Vous savez que c'est une chanson qui est souvent jouée dans les enterrements. Souvent demandée dans les enterrements.
Vous nous calmez d'un coup là.
Mais non, mais c'est une chanson. Promets-moi si tu me survis d'être plus fort que le temps, je crois. Laurent Tessier.
Nous vous attendons sur d'autres sujets au standard.
Il y a une question coiffure pour Francis Lalanne peut-être.
Pas du tout.
Parce que ça le concerne ça vous concerne aussi.
Exactement, si comme moi, voilà, vous avez la coupe Fabien Barthez, ce sujet ne vous concerne pas. Mais faut-il en finir avec cette différence de tarif entre les femmes et les hommes chez le coiffeur?
On se ramène les cheveux vers l'avant, en les lavant.
C'est la demande d'un collectif coiffure. En lutte, ils proposent d'ajuster les tarifs selon la technique et le temps passé.
Mais qu'en existe vraiment ce collectif?
Oui, véridique. Bah, d'ailleurs, si vous faites partie de ce collectif, appelez-nous au 3210.
C'est incroyable. Hein. Mais on pourrait avoir quelqu'un du collectif commencé.
Bah, écoutez,
lutte notre... coiffure.
Coiffure en lutte.
Coiffure en lutte.
Eh bien, ça va être notre mission au 3210. Dites-nous votre avis. Vous en avez marre de porter le masque? Les propos de Jean-François Delfraissy, voilà, ce matin sur RTL vont vous faire plaisir.
Je pense qu'il sera très difficile de garder le masque après le 30 juin. Il faut être raisonnable. Les gens qui sont à la campagne, les gens qui vont être sur les plages, les gens qui vont se balader, ils vont lui dire, enfin bon, les experts, attendez, arrêtez. On est capable de porter le masque là où il faut.
Le président du conseil scientifique, bravo, invité
Monsieur
Delfraissy, de Benjamin
Sportouche. Je trouve qu'avec le temps qui passe, c'est intéressant.
Des propos validés par Pascal Pro. Faut-il enlever le masque à partir du mois de juillet? En avez-vous marre? Est-il trop tôt pour vous? Au contraire, 32-10. Et c'est le tweet qui fait parler depuis ce matin. Celui de Raphaël Enthoven sur un scénario entre deux candidats au second tour de la présidentielle. Le philosophe a répété son choix sur LCI tout à l'heure.
Si Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon étaient face à face au second tour, ce qui n'a aucune chance d'arriver du fait de Mélenchon. Et si le vote blanc était impossible, s'il fallait mettre l'un des deux bulletins dans l'urne, quoi qu'il arrive, je me dirais, sans y croire, plutôt Trump que Chavez, et je voterais pour la première avant d'entrer en résistance.
Si le vote blanc n'était pas une option, disait-il dans son tweet, j'irais à 19h59 voter
avant
pour Marine
d'entrer
Le Pen.
En résistance.
Est-ce que cela vous surprend?
Non, mais avant d'entrer en résistance, faut peut-être... Mais en tout cas, je trouve que c'est un très bon sujet, vous savez, de dîner quand on s'ennuie. Si c'est Le Pen, Mélenchon, tu votes pour qui?
Le repas risque d'être animé.
Ah non, ça c'est un bon sujet.
Ouais. J'espère que les personnes avec qui vous dînerez bientôt n'écoutent pas cette émission, parce que si vous posez la question au dîner...
On va jouer à ça jusqu'à 14h30 avec les auditeurs. Si c'est Le Pen, Mélenchon, vous votez pour qui? Voilà là-bas une bonne question, franchement. Très bonne question. Chacun pense en son fort intérieur quelque chose. Vous pensez forcément quelque chose.
Oui, mais je ne dirai rien.
Bah, et vous avez raison.
Nous restons.
Moi aussi, je pense quelque chose. Je ne dirai rien non plus. Patrick.
Oui.
Ah, Patrick. Comment ça
moi
va?
Je suis partant pour venir au dîner. Hein.
Ah oui, bah, évidemment, dès qu'il s'agit de dîner,
on
est content.
Non, il n'y a pas que ça. Non, mais ça m'intéresse. Franchement, ça m'intéresse.
Mais non, mais c'est très. Ah, franchement, oui. C'est un excellent sujet.
Ah oui.
Et on n'a pas le droit
de
voter blanc.
On voterait beaucoup parce qu'on parlerait beaucoup, mais
moi, je sais pour qui je voterais.
Ah non, mais ça c'est autre chose, Pascal. Mais moi, je retiens l'idée du dîner. C'est quand vous voulez, vous avez mon adresse.
Bien sûr.
Quand vous voulez.
Patrick. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'incident Lalanne.
Ah, écoutez, on efface déjà. Alors moi, je ne suis pas d'accord parce que vous appelez ça un journaliste. Pour moi, c'est pas un journaliste. C'est quelqu'un qui apprend le métier. Parce que franchement, j'ai bien regardé la vidéo. En aucun cas, il ne se présente de manière correcte et bien intelligible. Et puis ensuite, il commence, je dirais, avec beaucoup d'arrogance. Parce que lorsque vous arrivez dans ce genre de manifestation, vous savez pourquoi ces gens sont là, pourquoi ils se sont retrouvés. Et là, il commence à dire à Francis Lalanne, vous êtes là pourquoi? Et Francis Lalanne lui répond gentiment. Et l'autre argumente, disant, ah ouais, et c'est quoi? Ouais, mais ça veut dire quoi? Mais je comprends pas. Ah, mais expliquez-moi. Non, mais attends, rentre chez toi, reprends tes livres, et puis voilà, quoi. Donc je pense que ça, déjà, ça marque un ton qui est peut-être pas forcément, qui peut pas être compréhensible de tous. C'est-à-dire, je veux dire, ce type d'arrogance, il y a des gens qui l'apprennent, qui l'acceptent, et puis il y en a d'autres qui l'acceptent un petit peu moins. Alors certes, Francis Lalanne, je vous rejoins totalement, aurait dû dire, écoutez monsieur, je n'ai rien à vous dire, allez voir ailleurs. Mais je ne suis pas certain qu'il aurait coupé la caméra et je ne suis pas certain qu'il aurait continué d'arroguer.
Moi, je ne suis pas trop d'accord avec vous, parce qu'avant l'incident, il se passe quand même 2 minutes ou 2 minutes 15 d'interview dans lequel tout est normal. Et
non,
vous parlez d'arrogance,
normal.
Mais
ah,
il
oui.
accepte l'interview, Francis Lalanne.
Il accepte pas vraiment, parce qu'un peu plus tard, il le dit. Il a dit, vous m'avez permis de m'asseoir. Il a dit, non, je vous ai salué, monsieur. Vous m'avez dit bonjour, j'ai répondu à vous de bonjour. Point barre. Après, l'autre prend ça pour une invitation. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous êtes, vous, un professionnel. Je pense qu'en tant que professionnel, vous ne pouvez pas dire que ce monsieur a été professionnel.
Ce qui est vrai, c'est que... vous savez, le journalisme, c'est tellement large. Moi, je connais ces conversations depuis 40 ans. Dans le même métier, vous avez un... Le journalisme, c'est quoi? Ça peut être du reportage, ça peut être des éditos, ça peut être de la proximité. C'est tellement large comme mot.
Oui,
alors, le journalisme que fait Quotidien, c'est effectivement un journalisme particulier en ce sens qu'il ne demande pas à son interlocuteur souvent s'il veut répondre aux questions. Hein, il ne prend pas rendez-vous. Donc il va directement avec le micro à la chasse, si j'ose dire, et parfois il impose une interview que celui qui est interviewé ne voulait pas forcément. Voilà, c'est un critère de quotidien. Mais
oui,
vous dites c'est pas professionnel.
Ce non, mais à partir du moment où ce monsieur fait ce genre de choses, comme vous dites, je pense que derrière lui, il doit savoir que forcément, il peut tomber sur des gens qui vont pas apprécier.
Je suis Rappelez d'accord,
vous,
mais il a accepté au départ. Il a accepté. Non, en fait, ce qui met le fou au poutre, c'est que tout d'un coup, on lui dit. Les propos de Jean-Marie Bigard, il ne veut pas les condamner parce que c'est son ami. Mais je répète que les propos de Bigard sont vraiment odieux, abominables.
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Non, donc, mais attendez.
Il pouvait éviter botté en touche.
Pascal, il y a quelques années en arrière, vous avez un monsieur qui s'appelait, je sais plus, on le voit plus d'ailleurs, Zifredi, ou je sais pas quoi, qui est allé interviewer Gilbert Bécaud.
Oui, je me souviens.
Et Gilbert
Bécaud,
au moment. Voilà, exactement. On est dans le même cas de figure. Voilà.
Je sais plus à qui comment s'appelait ce journaliste et effectivement on va retrouver son nom. Mais ça c'était dans une émission.
Sympa. C'est pas. Voilà, il y a des gens qui apprécient, des gens qui n'apprécient pas. Voilà, c'est tout. Alors Lalanne, le seul défaut que je lui retiens, c'est de dire, à partir du moment où il a reconnu que ce journaliste faisait partie de cette émission et de ce journal, c'était de lui dire, non monsieur, désolé. Par contre, je rejoins totalement aussi ce qu'a dit le précédent auditeur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous dit, monsieur, l'interview s'arrête là, terminé, il arrête et puis c'est tout, il poursuit pas. Et je vous rappelle quand même qu'on a eu un président de la République que vous appréciez, qui n'a pas hésité lors d'une interview, lorsqu'on y a parlé de sa maladie, alors qu'il était président de la République, il a dit, terminé, on n'en parle plus.
Dan Bollander, il s'appelait.
Sinon, vous sortez.
Dan Bollander qui avait mis une.
Non, c'est pas lui.
Ah, si, c'est lui, c'est Dan Bollander.
Ah, non, il y en a eu un autre.
C'est Dan Bollander et il était dans l'équipe de Christophe de Chavannes. Il se fait gifler par Gilbert Bécaud qui n'avait pas apprécié ses questions pièges. Et cette gifle sera le commencement d'une longue série d'impostures. Vous êtes dans le Morbihan, chaque fois que vous venez, j'ai une petite chanson pour vous. Vous connaissez cette merveilleuse chanson.
On ne fait pas de sucre de canne dans le Morbihan.
C'est les Charlots, ça, j'adore cette chanson.
Alors, Morbihan, on a un temps magnifique, hein. On a plein de soleil.
Et il fait beau partout.
Je suis en terrasse et je vous salue.
Et vous êtes où dans le Morbihan ?
À Monterre-Blanc.
C'est où Monterre-Blanc ? Je connais pas.
Ah, c'est où ? C'est à Vannes, voilà, du côté de Vannes.
Vannes, merveilleux.
Voilà.
Vous connaissez cette chanson dans le Morbihan des Charlots ?
Ouais, non, on la met pas, non. On écoute les chansons bretonnes.
J'adore cette chanson.
Ça m'étonne.
Mais c'est les années 70 et 80. Il y avait de la dérision. On pourrait plus faire ça aujourd'hui. On serait taxé de tous les noms. Mais c'est les Charlots. Oui. C'était Rinaldi qui chantait. C'est merveilleux. C'est rigolo.
Bien
c'est
sûr.
Du second degré.
N'oubliez
c'est
pas de vous caler un dîner, hein, Patrick et Pascal.
Oui.
Ouais, je vais pas hésiter. Mmh.
13h51. Nous continuons cette émission jusqu'à 14h30. Au moins.
Cette émission, c'est.
Ce serait ma maison du bonheur.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il sera très difficile de garder le masque après le 30 juin. Déclaration ce matin sur RTL du professeur Jean-François Delfraissy. Faut-il l'enlever à partir du mois de juillet ? Nous sommes avec Sarah. Bonjour Sarah.
Bonjour Pascal, vous allez bien ?
Écoutez, ça va et vous habitez Marne-la-Vallée ?
Oui, à Disney.
Vous vivez dans Disney ?
Dans Disney, alors de l'autre côté, il y a un buisson derrière le buisson, il y a nos maisons de Chichi.
D'accord, vous n'êtes pas une fée ou un personnage de Disney, vous êtes un personnage réel.
Voilà, on va dire ça, oui, un commercial très réel.
Bon, vous allez l'enlever le masque ?
Alors, moi, j'ai appelé effectivement pour ça. Alors, je sais que beaucoup de mes collègues seront contents aussi de l'enlever à l'extérieur. Moi, personnellement, pas du tout. Je le garde et je suis très contente de pouvoir, d'avoir pu le sortir. Alors, bien évidemment, au-delà du fait que le Covid a été une période critique et horrible pour tout le monde, mais moi j'ai été contente de, sur ce côté-là, d'avoir du gel que j'ai depuis des années, donc d'avoir vu que les gens enfin avaient découvert ce que c'était du gel hydroalcoolique, et puis les masques. Moi j'ai travaillé dans des outlets ici où il y a énormément d'Asiatiques, de Japonais, de Coréens, qui ont des masques depuis des années, on s'est toujours moqué d'eux, et finalement on se dit, ah, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu la gastro, on n'a pas eu les maladies, moi je suis avec du grand public toute la journée, et c'est vrai que je ne suis pas tombée malade cet hiver. Les gens ont tendance, moi je travaille beaucoup avec les sportifs, les pharmaciens, etc., ont tendance à, qu'on dit parle, à s'emporter, et donc forcément à positionner beaucoup. Ben, moi je suis très contente de pouvoir me protéger derrière le masque, je sais qu'il fait chaud, c'est pas agréable quand on est à l'extérieur, je me rends compte, mais nous, moi je suis italienne, je sais que nous les Italiens on a tendance à rentrer dans l'espace vital des gens quand on parle, et voilà, moi le fait d'avoir un masque, je suis vraiment plus rassurée par rapport à, au-delà du Covid, hein, de toutes les maladies possibles, je passe derrière le gel. Je pense que le Covid nous a fait devenir aussi un peu parano sur beaucoup de aspects. Mais c'est important qu'on puisse se dire, ah, peut-être que l'hiver, bah, ce serait pas mal dans les endroits clos, dans les endroits fermés, pendant les rendez-vous, de garder le masque comme habitude.
Sarah.
Voilà.
Non. Sarah.
Vous êtes pas d'accord, oui.
J'adore votre témoignage. Vous savez pourquoi ?
Non, je sais pas.
Parce que vous me faites peur. Parce que, non, je pense que beaucoup de gens pensent comme vous, et ça me fait peur, et je vois ce monde-là arriver. Moi, je suis, je pense pas comme vous, mais c'est pas le sujet. Mais ce monde-là, je le vois arriver, mais gros comme une maison.
C'est vrai, je suis navrée.
Bah, c'est la vie, hein, c'est la vie. Je pense que beaucoup de gens pensent au fond comme vous. Je suis effrayé de ça, mais je constate autour de moi que depuis des semaines, je dis à ce micro que lorsque des employés vont aller voir le DRH en disant « je ne veux pas prendre les miasmes de monsieur Intel » ou « je ne veux pas prendre la grippe de monsieur Bidule » ou « je ne veux pas prendre la gastro de mademoiselle Truc », ça va être très difficile de dire « vous avez tort ». Parce que ce sont des arguments qui s'entendent. Et je vois ce monde arriver, hygiéniste, sanitariste, et moi je n'aime pas ce monde-là, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est les gens qui décideront. Vous, non, c'est ce que vous dites. Ce que vous dites d'ailleurs est imparable. C'est imparable.
Pourtant, j'ai essayé de le dire de façon...
Mais vos arguments, ils s'entendent. Moi, c'est pas les miens. Moi, je m'en fiche d'attraper une gastro. Je préfère vivre à l'air libre, sans masque, avec le risque. Parce que ça fait partie de la vie, le risque. Mais qu'est-ce que je peux répondre à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi ? Rien ? Rien ?
Ah oui ! Non, mais vous avez raison. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va aller dire à tout... Je ne me suis jamais permise, même pendant le Covid, d'aller embêter tout le monde sur le train. Pourtant, je prends des trains toutes les semaines, des avions toutes les semaines, et je vois des gens qui refusent le masque, continuent à tousser.
Ouais, quoi, c'est difficile de refuser le masque dans le train. Mais on laisse passer une pub, non, parce que vous allez rester avec nous. On va avoir le flash de 14h, mais votre témoignage est absolument passionnant. Parce que, je vous le répète, je pense que vous êtes représentative de tellement de gens que je rencontre autour de moi aujourd'hui. Ouais. Et parfois, je suis surpris, hein, pour tout vous dire. Monsieur Bois est en... Vous connaissez Olivier Bois, Sarah, qui est en train d'arriver. C'est un jeune et beau garçon. Et il a, comment dire, ça serait dommage qu'il ait un masque tout le temps parce qu'on ne verrait pas son visage en permanence. À tout de suite.
Oui, c'est vrai.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h01. Le flash avec Olivier Bois.
Emmanuel Macron est en déplacement dans la Drôme pour rencontrer les professionnels de la restauration en cette veille de nouvelle étape de déconfinement. Il maintient d'ailleurs le calendrier prévu, pas question d'accélérer. Même si la situation épidémique s'améliore, il annonce en revanche un rendez-vous au 21 juin pour les patrons de boîtes de nuit pour envisager la suite. Ils ne sont toujours pas dans le programme progressif de déconfinement. On le rappelle, donc demain, couvre-feu décalé à 23h, réouverture des restaurants et des cafés en salle, des salles de sport ou encore des attractions dans les parcs Arcatem. Il y a eu une vaste panne informatique mondiale à la mi-journée. Plusieurs sites de médias, par exemple, dont RTL.fr d'ailleurs, ont été inaccessibles. Ça a été le cas pour Le Monde également, à l'étranger pour le New York Times. Amazon a été touché également. C'était un problème visiblement de serveur. On n'a pas tous les détails encore. En tout cas, c'est en train de se régler. C'est réparé, sachez-le, sur le site RTL.fr. Le sport est le dernier test match pour l'équipe de France ce soir au Stade de France face à la Bulgarie. Coup d'envoi à 21h à suivre sur M6 et sur RTL. Il y aura également 5000 spectateurs ce soir au Stade de France. Partons à Roland-Garros.
RTL.
Roland-Garros 2021.
Jean-Michel Rascol, on vous retrouve porte d'Auteuil.
Oui, bonjour Olivier, et une égalité parfaite entre Tamara Sidanček, la Slovène, et Paola Badoza, l'Espagnole. Écoutez bien, 7-5 pour la Slovène dans le premier set, 6-4 pour l'Espagnole dans le deuxième set, et 3 partout entre les deux jeunes femmes dans le set de vérité. On se tient vraiment au point près parce qu'elles sont même à égalité 15 partout. Début des quarts de finale du côté des garçons. Zverev face à Davidovich Fokina, l'Espagnol, et Tsitsipas Medvedev. Ce sera l'affiche de cette journée en soirée à partir de 21h, toujours sans public.
Merci beaucoup Jean-Michel Rascol. On termine par le quintet à Longchamp. Voici l'arrivée provisoire, le 5. Il y a photo entre le 2, le 3 et le 10, et c'est le numéro 13 qui termine 5e de la course.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et on était avec Sarah, et c'est passionnant le témoignage de Sarah, parce que Sarah, elle nous dit le masque, faudra le porter toujours et tout le temps. Mais c'est ce que vous nous dites, c'est ça votre logique. Et moi je ne sais pas quoi répondre à cela, en fait. Je suis démuni parce que. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Ce monde-là, je
le déteste. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si tout le monde veut ce monde, si tout le monde veut ne prendre aucun risque, si on ne veut pas prendre un rhume, une grippe du voisin, etc., on se met tous en masque, on va au cinéma en masque, on va au théâtre en masque, etc., etc. Mais c'est votre monde que vous voulez, c'est bien ça. En fait, vous l'enlevez quand, votre masque? Quand vous êtes chez vous, c'est tout.
Non, j'enlève quand je suis chez moi, j'enlève quand je suis au restaurant, je suis assise.
Et autrement, vous le portez toute la vie.
Sinon, dans les endroits, effectivement, où je vais...
Vous vous rendez compte, quoi. Je n'arrive même pas, en fait...
À imaginer...
Mais je n'arrive même pas, Sarah, à qu'est-ce qui a pu se passer dans votre vie pour qu'à ce point, vous ayez peur de tout.
Non, alors moi je continue, j'ai travaillé, j'ai refusé le chômage technique, je continue à faire les événements entre guillemets là où on pouvait aller, les dégustations, tout ça. Je continue à travailler. Le fait de se passer plus le gel sur les mains et de garder un masque, c'est la seule chose qui a changé de ma vie. Après, bien évidemment, je refuse pas les dîners, j'y vais, j'ai fait énormément de tests PCR, je l'avoue, ça je l'avoue.
Vous faites quoi?
Mais j'ai fait beaucoup de tests PCR dans l'année dernière.
Mais vous êtes. Comment ça s'appelle quand on a peur d'être.
Hypochondriaque.
Vous êtes hypochondriaque?
Non, mais j'ai fait que ça. Après. À chaque fois que je tousse, je ne me dis pas, oh mon Dieu, je vais mourir.
Mais vous avez fait. Quand est-ce que vous avez fait un test PCR la dernière fois?
Il y a un mois.
Ah bon, ça va.
J'ai voyagé.
C'est pas tous les jours.
Je dois voyager, nous, on est italiens, et effectivement, ma mère, elle a vu personne pendant un an. C'était très grave, la crise en Italie. On a été peut-être même plus parano qu'en France sur certaines choses. Là, ça s'allège.
Bon,
moi, je vous dis, même les adolescents, pour les voir...
Ah oui, on les met en masque aussi. Tout le monde est en masque.
Voilà. Non, ils sont contents. Il y en a beaucoup qui sont contents parce qu'ils se disent, d'un côté, parce que je les ai eus, ils me disent, c'est quoi? D'un côté, j'ai des boutons, ça les cache. De l'autre côté, je suis dans le bus, j'ai peur de me faire agresser, mais j'ai le masque, je me cache derrière.
C'est gay, votre vie. Notre vie, pardonnez-moi, c'est pas la vôtre, ça va être gay notre vie. Bon, Sarah, on va se dire au revoir.
Mais oui, merci beaucoup de m'avoir donné la parole.
Donc vous avez le bonjour de Sarah.
Moi, le bonjour de qui?
Sarah Croche.
Ah, oh mon Dieu,
super.
Oui. Oh, les souvenirs du lycée, je vous remercie.
mais parfois, ça rappelle.
Oui, ça ne rappelle pas, généralement.
C'est joli en plus comme prénom, Sarah. Très joli prénom. Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas 10 ans. Merci, Sarah.
Ma mère. Merci à vous, Pascal.
Je vous embrasse.
Merci à
vous. Et on va être avec Marc. Marc va parler des masques.
Pas de jeu de mots avec Marc?
Non, mais cette vie qui s'annonce. N'avez pas peur, vous?
Non.
Non, vous avez peur de rien.
Moi, je pense qu'il peut y avoir un entre-deux. Quand on est malade, on porte un masque. Quand on ne l'est pas, on n'en porte pas. Voilà.
Mais quand on est malade, on ne vient pas travailler, enfin. Ce que vous dites n'a pas de sens.
C'est vrai.
Si vous avez la grippe, vous venez pas travailler.
Non,
pour
mais
le
évidemment,
coup,
mais lorsqu'on commence à avoir le nez qui coule, on peut déjà mettre un masque et puis aller chez le médecin. On va pas chez le médecin instantanément quand. Vous voyez ce que je veux dire?
Je comprends rien à ce que vous dites. Quand on a le nez qui coule, on va mettre un masque.
Mais non, ça veut pas dire. Non, mais vous pouvez avoir un petit rhume, mais au lieu de transmettre un rhume à tout le monde, vous protégez les autres.
Et c'est ça, vous êtes dedans, mais c'est votre génération. Très bien, mais moi, ça ne me dérange pas. Non. C'est votre monde. C'est votre monde, moi je suis déjà parti sur d'autres rives. Il est 14h07, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On parle du masque et des déclarations de Jean-François Delfraissy ce matin sur RTL qui disait que ça va être difficile de faire garder le masque aux Français après le 30 juin. Marc, bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous êtes délégué médical.
Exactement. Mais Sophie n'est pas là, malheureusement.
Marc et Sophie? Ah oui.
Et voilà. C'est pour être au même niveau de vos blagues, en fait.
Elles sont un peu meilleures, les vôtres, Marc.
Elles sont meilleures. Pardonnez-moi, les miennes sont vraiment sont très mauvaises. Bon, que voulez-vous nous dire, Marc?
Bah écoutez, sur le masque, moi je pense que ça fait bien longtemps que le masque devrait être retiré et non obligatoire. Je comprends tout à fait l'avis de Sarah, en fait, qui veut pas prendre de risques, etc. Mais dans ce cas-là, ma foi, moi je l'empêche pas de mettre un masque et je l'empêche pas de se laver les mains au gel hydroalcoolique. Mais moi je veux conserver ma liberté d'être démasqué. Et de me laver les mains, bien entendu, mais pour moi, il n'y a aucun intérêt à garder ce masque, surtout en extérieur. Et pourquoi j'ai ce raisonnement-là? C'est tout simplement parce que si un jour j'ai une forme grave du Covid, je saurai comment me traiter, et j'ai aucun doute sur le fait que il m'arrivera rien. Donc j'ai pas envie de vivre masqué toute ma vie. Voilà, c'est tout. Mais après, chacun sa liberté. Celui qui veut mettre le masque, il met le masque.
Votre argument est excellent. J'aurais pu lui répondre ça, effectivement, que chacun fait ce qu'il veut dans la société. Si elle veut porter le masque, elle le portera. Bon, elle m'aurait peut-être répondu que ça ne suffisait pas, qu'il faut que chacun le porte pour que ce soit efficace. Bon, mais cet argument est excellent, Marc, effectivement. Vous avez parfaitement raison.
Je suis un peu comme vous, en fait. Hein. J'ai peur de cette société qui s'annonce et où tout le monde va être masqué tout le temps. Enfin, je pense pas que ça arrivera, honnêtement, parce que il y a quand même de nombreuses personnes en France qui ne souhaitent pas être comme ça. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. C'est comme le vaccin. Celui qui veut se faire vacciner, il se fait vacciner. Moi, ça me pose aucun problème. Mais
est-ce que vous n'êtes pas vacciné?
Ah non, mais celui qui me piquera n'est pas encore né.
Mais vous n'avez jamais été vacciné?
De ma vie?
Oui.
Ah si,
parce qu'il y a des vaccins obligatoires.
Oui, bien sûr, oui.
Mais vous êtes délégué médical, donc vous baignez dans ce milieu-là. Pourquoi vous ne souhaitez pas vous faire vacciner?
Justement, c'est parce que je baigne dans ce milieu-là que je ne veux pas me faire vacciner.
Ah bah, vous me faites peur. Mais non, les plus grands spécialistes, vous vous rendez compte le nombre de gens qui ont été vaccinés dans le monde? Il y a pas de s'il y avait un souci, quand même, depuis le temps, on le saurait.
Bah écoutez, Pascal, je me souviens d'une émission que j'ai écoutée sur RTL, une de vos émissions, où il y avait le docteur Marty, et où il y a un auditeur qui a pris la parole et qui vous a alerté sur le fait que sur le site de l'ANSM, c'est-à-dire l'Agence de sécurité des médicaments nationale, donc française, il y avait, à l'époque c'était au mois de février ou mars, je sais plus, il y avait 303 cas de décès qui étaient juste derrière la vaccination. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle de la pharmacovigilance, c'est-à-dire la remontée de tous les effets indésirables. Et ben, sachez qu'au niveau européen, si vous allez sur un site qui s'appelle EudraVigilance, c'est-à-dire c'est la pharmacovigilance au niveau européen de tous les vaccins, vous avez, depuis que la vaccination existe en Europe, plus de 13 000 personnes qui sont décédées suite à une vaccination. Et je ne vous parle pas de tous les autres effets indésirables.
Je ne peux pas vérifier les chiffres que vous donnez de toute façon. Et ce qui est important, c'est de savoir s'il y a plus d'effets indésirables ou de décès, hélas, que sur un vaccin classique. Et a priori, les chiffres ne vont pas dans ce sens-là. Merci en tout cas, Marc, parce que c'était intéressant de vous écouter sur le masque. On est avec Arnould. Bonjour Arnould. On va jouer au jeu d'Enthoven. Au-delà de commenter ce qu'a dit Enthoven, Enthoven a dit entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, je choisis Marine Le Pen. Et ça, je trouve que c'est un bon sujet. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous faites, vous, entre les deux? Et ça, on va appeler ça le jeu d'Enthoven.
Oui, tout à fait. Je trouve que c'est une excellente question, en fait. Et ça permettrait de voir, en fait, si la population française est plutôt à gauche ou plutôt à droite.
Exactement, c'est pour ça que je trouve intéressant. Alors, vous faites quoi, vous?
Moi, très clairement, à contre-cœur, je vote Marine Le Pen. Simplement pour une raison simple, c'est que Marine Le Pen, je vais essayer de résumer. Marine Le Pen, pour moi, est prévisible. Jean-Luc Mélenchon est un homme imprévisible. Il est capable de faire d'avoir des propos sur les radios, sur la télévision, complètement démentiels, absurdes. Voilà, c'est un homme imprévisible. Et je trouve qu'à gauche, à l'extrême gauche, c'est la France insoumise, il y a un racisme de classe qui est insupportable. Et c'est vraiment, je n'ai aucune valeur en commun avec l'extrême gauche. J'en ai pas non plus avec l'extrême droite. J'ai peut-être un seul sujet sur lequel je suis d'accord avec l'extrême droite, c'est une rigueur dans la justice ou au niveau de la police et de la gendarmerie. Voilà, c'est peut-être le seul point commun que je peux avoir. Mais
bon,
voilà.
Donc, en tout cas, vous iriez voter, vous ne resteriez pas chez vous.
Bah, malheureusement, si le cas se présentait, j'espère que ça ne se présentera pas, oui, parce que je voudrais surtout, mais surtout pas, avoir Jean-Luc Mélenchon en tant que président de la République, ça c'est clair.
Bah, merci Arnaud, on va marquer une pause une nouvelle fois, et puis vous pouvez continuer bien évidemment à nous appeler, il nous reste un petit quart d'heure, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL,
avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On a inventé un nouveau jeu, c'est le jeu Enthoven. Vous pouvez le faire dans les dîners si vous voulez. Enthoven, Raphaël, le fils, a donc dit entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, je vote Marine Le Pen à contre-cœur, mais je vote Marine Le Pen. Alors, Arnould nous a dit qu'il voterait également Marine Le Pen. Écoutons Florence maintenant. Florence, entre les deux, pour qui votez-vous?
Bonjour. Eh ben, entre les deux, gros cas de conscience, j'en sais strictement rien. Et pendant une fraction d'une minute, là, vu la question que vous avez posée, alors tout de suite, la première réaction, j'ai dit tout haut dans ma voiture, je déménage.
Oui. Ah oui, c'est pas facile de déménager. Vous allez partir où?
Ah ben en Belgique, j'ai un fils qui habite juste à la frontière, côté France, près de Lille. Donc je me dis, on pourrait peut-être emménager avec mon mari de l'autre côté de la frontière, en Belgique.
Ah oui, parce que vous êtes effectivement... Parce que pour vous, vivre par exemple avec comme président de la République Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, l'idée est insupportable.
Ah, j'aurais beaucoup de mal. Hein. Mais pendant cette fraction de seconde, là, j'ai pensé aussi à deux images, deux croquis qu'il y avait dans mon livre d'histoire quand j'étais en primaire ou au collège. C'était Carandache. Donc la première image, c'était un repas de famille où les gens souriaient, ça avait l'air sympa. Et la deuxième image, ils se tapaient dessus et c'était marqué en dessous, en légende, ils ont parlé politique.
Bah oui, effectivement, voilà, faut pas parler. Mais vous avez parlé de Carandache. Alors, je sais pas si les gens savent qui est Carandache,
C'est un dessinateur, je pense, qui faisait des croquis satiriques.
Alors, parce que Caran, en fait, c'est le prénom. C'est son nom de plume, Carandache. Donc c'est Caran, C-A-R-A-N, plus loin, D-A-C-H-E.
Voilà, c'est ça.
Et c'était effectivement quelqu'un qui a vécu au 19e siècle et qui était dessinateur d'actualité, j'ai envie de dire. Hein.
Oui, oui. Et ce dont à quoi j'ai pensé aussi, et ça je le dis souvent, mes enfants sont habitués, y en a qui sont allergiques au gluten, moi je suis allergique au RN.
Vous ne nous avez pas dit pour qui vous votiez?
J'aurais beaucoup de mal et en plus j'ai vraiment un cas.
Faut nous dire vite parce que Pierre nous attend.
D'accord, parce que je suis élue.
Dites-nous, vous votez pour qui?
J'en sais rien.
D'accord.
Je sais pas.
Vous savez pas. Pierre, c'est le jeu Eindhoven. Pierre, vous votez pour qui entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon?
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour.
Bonjour. Écoutez, moi, sans hésitation, je vote Marine Le Pen.
Alors, ce qui est intéressant, c'est si vous ne votiez pas Marine Le Pen habituellement, parce qu'autrement, le jeu n'a pas d'intérêt. Le jeu, il a un intérêt si t'es pas électeur de Mélenchon et si t'es pas électeur de Marine Le Pen. Autrement, il n'en a pas.
Non, bien sûr, mais moi, je considère que Mélenchon, il est bien plus... je perds mes mots, je suis désolé.
Bah, je vous en prie, il est bien plus dangereux, vous voulez vous dire?
Il est bien plus dangereux que Marine Le Pen, parce que, voilà, moi, si Mélenchon était au pouvoir, lui, il interdirait Marine Le Pen. Alors, je pense que l'inverse, pas du tout. Moi, je considère que Marine Le Pen, c'est la plus démocrate même de l'espace politique, quoi. Je veux dire, elle est pour les référendums, elle est pour la proportionnelle intégrale, elle est pour le pluralisme. Donc, je veux dire, c'est elle la plus démocrate et la plus républicaine. Et donc, ils arrêtent de nous bassiner avec leur histoire de...
Non, mais les deux sont républicains, puisque par définition, c'est deux partis qui sont...
Ils
sont pas interdits, donc...
Mais moi, j'ai souvenir de Mélenchon disant, il faut interdire le FN. Donc je pense que lui, c'est un facho.
Merci Pierre, vous étiez le dernier auditeur, le débrief de Monsieur Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Francis Lalanne est-il devenu un adepte des polémiques? Un journaliste de Quotidien a déposé plainte contre le chanteur. Il l'accuse de lui avoir donné un coup de poing et de l'avoir frappé avec un casque d'écoute samedi à Avignon. L'entretien se déroulait correctement, mais quand le sujet Jean-Marie Bigard est évoqué...
Si vous comptez sur moi pour dire du mal d'un ami, vous êtes... Ma réaction, c'est que je n'aime pas ce que vous venez de dire. Je n'aime pas la façon dont vous présentez les choses.
C'est un appel au meurtre.
Vous présentez les choses, ça s'appelle...
Et ensuite, l'ambiance est très tendue.
Enlève la caméra.
Louis a été le premier à réagir sur ce sujet au 32-10.
C'est un vrai artiste, c'est un homme qui a une vraie sensibilité artistique. Et aujourd'hui, on a un homme en colère et qui s'auto-met en colère tout seul. Et ça, c'est dramatique.
Gilles soutient le chanteur.
Quand il dit j'ai pas envie de répondre, en gros je crois qu'on est propriétaire de son image, et quand il dit rendez-moi, en gros je ne veux pas que ça soit diffusé, bah il a le droit. Et le fait d'être journaliste n'autorise pas à outrepasser ça.
Et Gilles ne s'arrête pas là, il continue de soutenir Francis Lalanne.
Quand j'ai envie d'acheter une voiture, que je contacte un vendeur de voiture et qu'il me rappelle, c'est normal, mais qu'il me tanne tous les jours pour me faire acheter une bagnole, j'ai pas envie d'acheter, j'ai le droit de pas avoir envie qu'on m'empoisonne. Je pense qu'à sa place, je me serais peut-être énervé pareil.
Et sinon, nous aimons bien vous proposer des petits jeux à l'antenne.
Ça, c'est un très bon sujet, vous savez, de dîner quand on s'ennuie. Si c'est Le Pen-Mélenchon, vous votez pour qui? Voilà là-bas une bonne question, franchement. On va jouer à ça jusqu'à 14h30 avec les auditeurs.
Eh bien, Patrick a sauté sur l'occasion.
Moi, je suis partant pour venir au dîner.
Ah oui, bah, évidemment, dès qu'il s'agit de dîner, ça, on est content.
Bon, Pascal tente aussi de vous imposer sa playlist personnelle pour s'endormir.
Vous connaissez cette chanson dans le Morbihan des Charlots?
Ouais, on écoute les chansons bretonnes.
La musique, ça s'est fait, alors tentons les petites blagues.
On va se dire au revoir.
Mais oui, merci beaucoup d'avoir donné la parole.
Donc vous avez le bonjour de Sarah.
Moi, le bonjour de qui?
Sarah Croche.
Souvenir du lycée,
mais parfois ça rappelle.
Oh, très bon, et mesdames, messieurs, l'heure est grave. Faut-il en finir avec cette différence de tarifs entre les femmes et les hommes chez le coiffeur? C'est le demande d'un collectif.
Coiffure en lutte.
Eh oui, vous imaginez la réaction du plus chevelu de l'équipe, Greg Caradoni, notre Chewbacca d'Aix-en-Provence. Ah, on va vous faire la trade. Ça va, Greg? Vous n'êtes pas trop en colère contre coiffure en lutte?
Non, mais c'est un scandale. Moi, ça va me coûter une fortune en coiffeur.
Oui, oui, on vous comprend. Sinon, un projet personnel, Pascal?
Le 1er juillet, j'enlève le haut.
Oh, sensualité. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson qui ne concerne pas tous les chauves que je représente.
On se ramène les cheveux vers l'avant.
Est-ce qu'on pourrait relancer Monaco 28 degrés demain?
Oh oui!
Parce que c'est chaque année, on essaye de relancer ce titre de Monsieur Albertini, auquel avait participé Didier Barbelivien. Monaco 28 degrés à l'ombre. Et ça sera la troisième année qu'on essaiera de le relancer. Chaque année, on le fait. Voilà.
C'est déjà prêt, évidemment.
Monaco 28 degrés à l'ombre. C'est trop. C'est chaud.
28 degrés à l'ombre.
Je suis sûr que Jean-Michel Rascol a le même humour que moi. Il adore cette chanson. Jean-Michel!
On est tout seul au monde.
Mais il n'est pas là, Jean-Michel. Il est à Roland-Garros. Donc dans une seconde, salut!
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.